Une grande consultation publique sur l'eau à l'échelle du bassin Loire-Bretagne est lancée. Donnez votre avis en tant que citoyen jusqu'au 18 juin. Pour contribuer à une vision d'avenir pour l'eau, l'association SOS Loire Vivante ERN France vous informe.
Pour la reconquête de la qualité de l'eau sur le bassin Loire-Bretagne, l'implication de chacun est importante. Et pour y arriver tous ensemble et pour que chaque acteur de l'eau agisse au mieux, de nouvelles interactions se sont mises en place progressivement. On parle de gouvernance. Madame Opériol, vous êtes directrice de l'information de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une bonne gouvernance de l'eau ?
Une bonne gouvernance de l'eau, c'est la méthode qui va nous permettre d'associer l'ensemble des acteurs pour une prise de décision concertée, juste et qui permette ensuite de mettre les décisions en œuvre. Prendre des décisions pas concertées en amont, c'est facteur d'échec. Et dans le domaine de l'eau, on sait qu'on a besoin d'emmener l'adhésion du maximum de nos interlocuteurs. Donc l'enjeu de la gouvernance, c'est vraiment de les associer au bon moment, en amont des décisions, pour ensuite avoir des décisions efficaces.
Nous allons dresser un bref aperçu des instances de l'eau pour voir qui fait quoi.
Vous avez d'abord une direction de l'eau et de la biodiversité, j'insiste, au sein du ministère de l'écologie et du développement durable. Cette direction coordonne l'ensemble de la politique de l'eau et coordonne l'action des différents établissements publics qui interviennent sur le sujet. Dans les établissements publics de l'État, vous allez trouver les agences de l'eau, vous allez trouver aussi l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par exemple. Les services ensuite interviennent au niveau des régions, avec les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, DREAL. Et puis les agents de l'État, vous les retrouvez également dans les directions départementales des territoires.
Les agences de l'eau, en fait, sont des établissements publics qui sont un peu le bras financier de la politique de l'eau.
C'est tout à fait ça. Donc les agences de l'eau, une gestion de l'eau, un bien des principes, qui est de gérer l'eau à l'échelle d'un bassin hydrographique. À cet établissement public est dévolue une double mission, c'est de mettre en place des redevances sur les usages de l'eau, donc des redevances sur les pollutions, sur les prélèvements d'eau, de percevoir ces redevances et avec le produit de ces redevances, de faciliter en les subventionnant des actions qui vont concourir à préserver la qualité de l'eau, préserver les milieux aquatiques, préserver aussi les ressources d'un point de vue quantitatif. L'approvisionnement en eau potable des habitants et le traitement des eaux usées des habitants, c'est une compétence des communes. Donc le premier interlocuteur là du citoyen, ça va être le maire. Alors le maire lui-même ou le syndicat auquel il a délégué ou l'intercommunalité ou l'agglomération.
Oui, voilà, ça peut être la communauté de communes ou la communauté d'agglo.
Tout à fait.
Vous venez de parler du coup de niveaux qui pourraient parfois être contradictoires, tout comme certaines politiques publiques, par exemple la politique d'urbanisme, pourrait avoir des intérêts contradictoires avec la politique de l'eau. Comment on fait pour concilier ces différentes politiques publiques ?
Alors ça, c'est une vraie préoccupation. La politique agricole, c'est évidemment l'exemple le plus connu, puisque dans un bassin comme Loire-Bretagne, le poids des pollutions d'origine agricole est vraiment très prégnant. L'exemple de l'urbanisme, imaginons construction d'une zone d'activité sur une zone humide, il y a une petite contradiction. Alors, on a des outils, hein, il y a un outil comme le SDAGE par exemple, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. C'est un outil de planification de la gestion de l'eau et c'est un outil qui prescrit la façon dont on va pouvoir par exemple préserver, restaurer des cours d'eau des zones humides. Et ce SDAGE, il s'impose aux décisions administratives qui ont un impact sur l'eau. Et il s'impose notamment au schéma d'urbanisme, au SCOT, au PLU, qui doivent être compatibles avec ce SDAGE.
Alors comment ça se passe, cette concertation, cette gouvernance pour l'élaboration du SDAGE ?
L'élaboration du SDAGE se fait au comité de bassin, une assemblée assez large, hein, 190 membres. Donc on va avoir dans ce comité de bassin une présence de l'ensemble des familles d'acteurs de l'eau et c'est ce comité de bassin qui va élaborer le projet. Sur le projet, il va consulter. Et là, actuellement, toute association, tout groupement industriel, groupement d'agriculteurs peut actuellement émettre un avis.
Cette grande consultation sur l'eau qui a lieu actuellement, elle concerne donc tous les citoyens, mais aussi toutes ces catégories d'acteurs. Donc finalement, c'est un outil pour la bonne gouvernance de l'eau.
Effectivement, c'est mettre un document d'abord à disposition, avant que la décision soit prise, et peser sur ce que sera la décision finale.
Est-ce que les citoyens ont aussi un rôle actif en matière de veille et de prévention des pollutions et des abus qu'ils pourraient constater localement concernant les questions de l'eau ?
Les citoyens sont assez sensibles à ces questions-là et sont en veille assez spontanément. Si l'on constate une pollution, si l'on constate des dégâts faits sur un cours d'eau, les services de police de l'eau, des directions départementales des territoires ou de l'ONEMA sont là et le citoyen peut tout à fait s'orienter vers eux. Mais vous parlez de veille et moi j'attire l'attention sur le fait que nous devons tous être en veille aussi sur nos propres comportements.
Alors justement, quel geste quotidien les citoyens peuvent mettre en place pour préserver l'eau?
On a tous une attention à porter à la maîtrise de nos consommations d'eau. Mais il y a un autre aspect auquel on pense moins souvent, c'est que nous sommes tous pollueurs. Nous utilisons tous un certain nombre de produits qui pourraient ne pas être nécessaires. Dans nos jardins, on peut tout à fait travailler sans pesticides. Lorsque l'on bricole, on n'envoie pas ses solvants dans les réseaux d'eau usée. On évite de mettre ses huiles de vidange dans les niveau, etc. Ça paraît trivial, mais la pollution avec un grand P, c'est la somme de beaucoup de petites pollutions. Regardons un petit peu dans nos placards.
Merci Madame Opérion.
Vous en prie.
La Loire est vivante et fragile, laisse-la tranquille. La Loire est vivante et fragile, laisse-la tranquille.
Roberto Eplet, vous êtes président de l'association SOS Loire Vivante ERN France, une association mais aussi un réseau d'acteurs qui œuvre pour la protection et la mise en valeur de la Loire et de son bassin versant. À la fin des années 80, la Loire a connu un combat historique qui a permis de faire avancer la gouvernance de l'eau. Depuis lors, pour vous, quelles sont les grandes avancées en matière de participation de la société civile à la politique de l'eau?
Oui, alors j'en prends comme référence ce qu'il y avait à la fin des années 80, on peut dire qu'il y a eu des avancées assez importantes en ce qui concerne notamment la Loire, qui est en partie encore un peu un pilote, car voilà, il y a un grand combat donc de la société civile qui avait fait pression sur les gestionnaires à l'époque. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un grand plan Loire Grandeur Nature et qui a permis, d'une certaine façon, à améliorer la gouvernance autour de la gestion du bassin. Le plan Loire lui-même, il donnait une place aux associations, une voix, jusqu'à peu près à 2002-2003. Après, on est revenu sur une sorte d'exclusion un peu des associations dans le cadre de la décentralisation. Ce qui a fait que nos partenaires sont de plus en plus devenus des régions, et dans les régions, il n'y a pas encore cette culture de faire participer la société civile.
Alors aujourd'hui, comment le réseau Loire Vivante continue de penser l'avenir de la Loire et de son bassin et quelles actions sont mises en place par ce réseau?
Au niveau du bassin entier, il faut revenir un petit peu sur ce qui sont les régions elles-mêmes. Alors il y a une sorte de mélange de travail à faire qui est entre le bassin, la vision globale, et puis la décliner sur les objectifs régionaux parce que les partenaires régionaux qui ont aujourd'hui le pouvoir, eux, ils n'ont jamais la vision et nous, on peut l'apporter. Donc, il faut se réadapter et nos processus de mise en place, ce qu'on appelle les assises, une sorte de forum permanent des associations sur l'ensemble du bassin, est un outil pour répondre à ces besoins. Mais aussi, il va falloir en venir à nouveau, faire beaucoup, beaucoup de formations auprès des acteurs associatifs qui, en la tendance, se renouvellent heureusement. Donc, il n'y a pas toujours une continuité des personnes. Donc, il faut veiller à ce que les gens qui arrivent à nouveau dans les associations peuvent se mettre au même niveau de connaissance que ceux qui sont peut-être moins actifs après quelques années. Voilà un petit souci qu'on a parce qu'on travaille dans la durée et c'est normal que nous devons trouver des solutions à ce problème, tout comme les autres structures d'ailleurs aussi.
Pour mieux préserver l'eau pour les générations futures, Roberto Eplet, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme action concrète, assez radicale?
Je pense qu'il y a un immense projet à mener, c'est-à-dire impliquer beaucoup plus fortement nos citoyens. Les gens, ils pensent en règle générale que l'eau, voilà, vient du robinet. Ils oublient que finalement, ça vient quelque part d'un lac ou d'une rivière ou d'une nappe souterraine. et qu'il faut la pomper, et puis et qu'elle impacte évidemment les écosystèmes, la surconsommation notamment. Donc il faut qu'ils sachent que c'est un cycle d'eau. B, il ne faut pas laisser l'eau aujourd'hui, c'est une tendance, privatisée, hein, même si on parle que de la gestion, mais en fait ça reste un bien public. Pour assurer ça, il faudrait créer une sorte de charte de tous les acteurs de la société. Bon, peut-être c'est le fameux contrat mondial pour l'eau, où on déclare que l'eau est un bien commun pour chacun de nous. Un autre aspect qui est important, beaucoup, beaucoup de citoyens qui sont prêts aujourd'hui à s'engager pour l'eau, ils n'ont pas les connaissances de la vraie consommation de l'eau qu'ils ont eux, notamment de ce qu'on appelle l'eau virtuelle. Donc l'eau qu'ils ne consomment pas directement, lui, sous forme de l'eau, mais sous forme de produits, que ce soit alimentation ou des produits technologiques, voitures, etc., etc. On consomme 10 fois plus de l'eau virtuelle que de l'eau vraiment, quand on regarde sa propre facture de l'eau. Et évidemment, là, éviter à puiser dans nos réserves d'eau fossile souterrains, dans les grandes nappes profondes. Il faut les exploiter juste au minimum, qui permet à maintenir année par année à les renouveler. Ça, pour moi, c'est absolument crucial et essentiel. Mettons les outils en place pour que ça soit respecté, pour maintenir assez d'eau pour nos futures générations.
Très bien, Roberto Eplé, merci beaucoup. Et bonne continuation dans vos activités associatives pour protéger les rivières.
Merci Claire.
Parce que votre avis compte, participez à une consultation publique sur l'avenir de l'eau et des milieux aquatiques en répondant au questionnaire à votre disposition sur le site internet prenonssoindelleau.fr. Cette émission vous a été proposée par SOS Loire Vivante ERN France avec le soutien de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne.